Bonjour, vous êtes bien sûr
Radio Vassivière.
À l'écoute de
Élève-toi
avec les enfants.
Une émission pour les parents et les professionnels de l'enfance et de l'éducation, tous ceux qui ont envie de s'élever auprès des enfants, afin de les accompagner avec justesse et leur permettre de donner tout leur potentiel dans ce monde. Bonjour, bienvenue pour cette 48e émission de
Élève-toi
avec les enfants.
Eh bien, vous êtes bien à l'écoute de la radio...
Radio Vassivière.
C'est bien ça. Et oui, c'est la 48e émission. Je rappelle comme à chaque fois que sur le site de radiovassivière.com, à l'onglet émission Élève-toi avec les enfants, vous pouvez retrouver tout plein des replays des émissions d'avant. Voilà, voilà. Parce que des fois, je dis, ça je l'ai déjà dit dans une autre émission. Ben voilà, c'est là-bas qu'il faut aller chercher. Alors, cette semaine, je vais répondre tout d'abord à la question d'une auditrice. Et sa question, porte sur la coopération entre adultes auprès des enfants. Là, précisément, c'est en tant que professeur des écoles, je me retrouve dans une école où, l'ambiance est, un petit peu tendue, où les adultes ont l'habitude de parler aux enfants, et bien d'une manière qui n'est pas très heureuse quand on a développé son oreille à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et tous ces adultes qui paraissent démunis, qui n'arrivent pas à faire autrement que de crier ou de parler, pas au mieux, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà sa question. Et puis je vais élargir, globalement, quels sont les moments où on se retrouve à coopérer entre adultes et quelles sont les différentes situations. Alors bien sûr, tout d'abord, il y a la coopération dans le couple, ça va être la première. En général, c'est pas toujours le cas, je sais, mais en général, on est deux à souhaiter l'arrivée de cet enfant. Et c'est là le début de la coopération. Et ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais un grand centre d'apprentissage, une école, un laboratoire, faire avec l'autre parent. Alors évidemment, quand on est en couple, mais bien souvent, quand on est en couple, ça va être plus commode que quand on va se séparer en plus. Donc là, je ne vais pas parler de la séparation aujourd'hui, mais juste déjà, donc quand on est en couple, on va devoir coopérer avec un autre adulte et là nous sommes dans une relation qui est complètement égale. Nous sommes deux parents à part entière, des parents rentables, on va espérer. Et une voix, il n'y a pas d'autorité l'un sur l'autre dans l'idéal. Et on va devoir s'accorder nos violons. Alors, bien souvent, ce qui va pouvoir tendre un petit peu, c'est quand on voit que l'autre, il fait pas comme on aimerait. Il fait des choses là qui sont agaçantes. Alors, soit on choisit la voie de l'agacement. Ça m'agace, ça me tend. On pointe du doigt les défauts, alors à l'oral ou pas, mais déjà rien que de les pointer à l'intérieur, ça va avoir des conséquences. Une conséquence à laquelle on n'est pas habitué, mais si on lit des enseignements, par exemple ceux d'Omram Mekhaïla Ivanov, on apprend vite qu'à chaque fois que l'on pointe du doigt le défaut d'un autre, on commence à se le prendre pour soi. Voilà. Donc, pointer du doigt le défaut de l'autre avec qui on passe le plus de temps, en plus en famille, c'est le meilleur moyen pour se retrouver avec le même défaut. Vous me croyez pas? Réfléchissez bien, posez-vous bien la question, on va voir si ça n'a pas déjà un petit peu été fait comme ça. Donc voilà, première chose déjà, ne pas pointer du doigt, ne pas être dans l'agacement tendu sur « Ah, il a ce défaut ». Alors encore pire, bien sûr, si on vient en parler autour de soi, alors là, la cata, on démultiplie tout. Et si on se tend et qu'on met de la mauvaise énergie, bien sûr, sur tout ça. Bon, est-ce que ça veut dire ignorer? Non, ça ne veut pas dire ignorer ce que fait l'autre de travers pour élever dans l'éducation de nos enfants que nous avons là en commun. Donc, l'idéal va être de trouver la manière juste de dire ce qu'il est juste de dire au moment le plus juste pour réussir à avancer dans le même sens. Et oui, Donc déjà, la première question que je peux me poser, c'est, bon, attends, est-ce que c'est bien utile de dire ça, okay? Est-ce que maintenant, c'est le bon moment? Alors évidemment, si ça met l'enfant en danger, si ça lui fait, ça pose problème, l'intérêt de l'enfant en premier, hein, s'il y a besoin que je réagisse tout de suite, je réponds tout de suite. Ça ne veut pas dire voilà, que je vais m'empêcher de répondre et ne pas protéger mes enfants, ben non. Donc voilà, s'il y a besoin d'intervenir tout de suite, j'interviens tout de suite, bien sûr. Mais on peut se poser la question, il y a peut-être plein de cas où ce n'est pas la peine d'intervenir tout de suite, ni besoin d'en parler tout de suite, et encore moins devant les enfants. Parce qu'alors là, pas bon non plus quand on va en parler devant les enfants. Donc, quel moment on va se trouver dans le couple pour pouvoir avoir ces temps de régulation, de pouvoir se dire, bon, ok, il y a cette chose-là qui revient de manière récurrente et là, ça ne me convient pas. Donc, parler de soi, voilà, moi, ça ne me convient pas. Voilà ce que je constate que ça fait chez nos enfants. Voilà ce que je constate que ça fait dans l'ambiance dans la famille, voilà, dans différentes choses. Et voici ce que je propose en échange, à la place. Donc être au maximum dans un discours qui va être constructif. Voilà ce que je constate qui ne va pas, qui ne convient pas, et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Et si besoin, alors on peut espérer que dans le couple, on va être d'accord pour s'enrichir mutuellement, hein, s'il y a des lectures à faire sur le sujet, des vidéos à écouter, des émissions d'Élève-toi avec les enfants à écouter sur le sujet, ben voilà, on va proposer à l'autre, ou des fois lui demander, hein, si la situation devient trop tendue aussi, ou avant que ça devienne trop tendu, eh bien voilà, d'avancer ensemble, de réfléchir ensemble pour faire mieux. Donc tout ça pour dire, eh ben, l'idéal c'est de ne pas se crisper sur le défaut de l'autre, mais ça ne veut pas dire non plus faire l'autruche et faire comme si ça n'existait pas. Donc trouver la manière juste et bien se poser les questions en soi d'abord, est-ce que ce que je vais dire c'est utile? Est-ce que c'est le bon moment tout ça comme j'ai dit, hein, parce que sinon on va juste créer de la tension encore plus. Et si je sens que ça fait beaucoup de tension à l'intérieur de moi, ben, m'interroger quoi, est-ce que c'est vraiment parce que là c'est... l'enfant là il va vraiment pas bien et dans son intérêt il faut vraiment là qu'il y ait quelque chose qui bouge, ou est-ce que c'est une tension de mon petit moi personnel, de mon ego qui ressurgit à cet endroit là et oui, le travail d'introspection va être aussi intéressant. Donc là, on était égal à égal, et bien oui, on va chercher des solutions ensemble, on va chercher des espaces pour se les dire, et personne n'a à avoir d'autorité sur l'autre, voilà. Et il y a d'autres cas où on va se retrouver ben là, au travail, par exemple, dans des situations où soit eh ben, on aura un supérieur au-dessus et qui n'agit pas au mieux, soit ben, c'est quelqu'un d'égal, un collègue, soit c'est quelqu'un sur qui on va avoir une autorité. Voilà, donc on va prendre ce cas-là. Si je me retrouve au travail et que j'ai sous ma responsabilité quelqu'un d'autre qui est en train d'agir pas au mieux du tout avec les enfants. Et bien déjà, c'est la même chose. Hein. Si je me crispe sur ses défauts, c'est le meilleur moyen que je me les approprie. Et si je me crispe de manière générale, et ben je vais moi-même mettre de la mauvaise ambiance et de la mauvaise humeur, pas top. Et si je dis rien, et ben oui, c'est aussi la mauvaise humeur qui va arriver parce que ça se passe pas du tout comme on veut et on n'est pas bien. Donc là, encore une fois, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire, et ben pour que tout le monde puisse avancer et toujours penser à l'intérêt de l'enfant. Alors, quand on est capable de pouvoir parler sur le moment avec le plus d'amour, d'empathie et peut-être d'humour possible à la personne, eh bien, on va pouvoir le faire. Mais donc, il faut qu'on se sente connecté à cette personne. Hein. Il faut qu'on sente qu'elle est prête à accueillir ce qu'on va dire et donc que nous, on va le dire de la meilleure manière possible. Et on va peut-être pouvoir utiliser des exemples. Allez, exemple. Eh bien, bien souvent, malheureusement, voilà, le personnel qui est là pour encadrer les petits à la maternelle, les ATSEM ou les employés communaux, autres employés communaux ou de cantine, il y a une mauvaise habitude qui est de dire « tu vas tomber, hein, tu vas tomber, tu vas te faire mal, tu vas tomber, tu vas te faire mal ». Alors on peut dire à la personne, à un moment où voilà, on relâche, où c'est possible d'en parler, et je sais que ça manque aussi ces moments-là, eh bien, imagine. Toi, tu fais du roller, c'est la première fois que t'en fais, ou voilà, t'apprends, et t'as avec toi quelqu'un bah, sur qui tu comptes, hein, voilà, c'est lui qui va pouvoir t'aider, hein, qui est là pour toi, et tu montes sur les rollers, et à peine t'es monté dessus, qui te dit « tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas te faire mal, ah tu vas tomber, tu vas te faire mal ». Ah, ben dans quel état tu te sens là? Et ouais, c'est pas top, hein. Alors déjà, eh ben oui, on risque de provoquer la chute plus qu'autre chose, et puis l'image de soi, hein. Donc celui qui est là pour m'accompagner, bah, il n'a pas confiance en moi. Il pense déjà que je vais tomber. Ah zut. Et puis, ben voilà, cette relation aussi qui va faire que, dans quel état je me mets vis-à-vis de cet adulte-là ? Qu'est-ce que ça me fait ressentir vis-à-vis de lui ? Ah, ben zut, je me sens pas trop en sécurité, ni accueillie pour tout ce que je suis, ni complètement vraiment soutenue, on va dire. Voilà, donc on peut tous imaginer en train de faire, alors que ce soit du roller, du skateboard, de la patinoire, je sais pas, quelque chose à laquelle on n'est pas habitué, avec un adulte sur qui on est là pour compter, qui va nous dire « tu vas tomber ». Donc, on peut donner des petits exemples comme ça. Comment tu te sentirais, toi, si ? Voilà. Et puis, pouvoir proposer une autre manière, parce que c'est pas parce que cette manière de parler-là ne convient pas qu'il faut rien dire. Il faut informer si le sol est glissant. Il faut informer, voilà, s'il y a un lacet qui est défait. Il faut informer si... Et puis, il faut arrêter. Si l'enfant, il va trop haut, il faut arrêter. Il faut le parer, peut-être, si c'est un endroit où c'est... il peut encore être, mais il y a besoin d'être paré, voilà. Donc, il va falloir apporter les informations ou apporter l'action qui est juste. Mais souvent, ça passe par très peu de paroles, juste, voilà, le sol est glissant, le lacet est défait. Et sur le ton sur lequel on va dire aussi, évidemment, tout le temps. Donc, ça va être, si je reprends, voilà, au départ, on est en train de se dire, j'ai autorité sur quelqu'un qui est là auprès des enfants et je constate qu'il y a des choses qui ne sont pas faites comme j'aimerais. Eh bien, moi, je me mets au mieux. Donc, je me mets au mieux. Ça veut dire quoi, je me mets au mieux ? Je travaille sur moi, je fais tout ce qui me fait du bien, je danse, je chante, j'invente des poèmes, je colorie, je dessine, je médite, je vais dans les bois, je fais du yoga, je fais du qigong, je vais courir, je vais nager, je joue au foot, je sais pas, voilà. Je fais ce qui me fait du bien pour arriver dans les meilleures dispositions possibles sur le lieu de travail et pouvoir être le plus avenant possible avec la personne, voilà. Et puis... Eh bien, c'est réussir à faire page blanche et ne pas nourrir de ressentiment. Voilà, ça c'est autre chose, le ressentiment qui va venir vraiment sinon envenimer et compliquer les choses. Donc, je fais table rase du ressentiment avant d'arriver. Je réussis à faire table rase. Alors moi, les outils que j'utilise, c'est les enseignements IAM. Vous pouvez cliquer sur mon site dessous cette émission et vous aurez les liens enseignements IAM. Et là, il y a tout ce qu'il faut pour faire le nettoyage à l'intérieur chaque jour et se remettre bien. Et ça prend du temps, c'est sûr. Et puis, il faut être constant, rigoureux, discipliné, mais ça marche. Mais voilà, chacun ses portes d'entrée pour ça. Mais en tout cas, c'est important, c'est qu'est-ce que je fais moi pour ne pas nourrir de ressentiment et réussir à arriver le matin en voyant cette personne dans toute sa pureté, dans toute sa beauté, savoir qu'à l'intérieur d'elle, il y a la perfection quelque part. Il y a une partie d'elle-même qui n'est pas blessée et qui n'est pas hypnotisée par le modèle ambiant et qui est capable de donner le meilleur aux enfants. Voilà. Donc j'ai dit le principal, ne pas se crisper sur les défauts des autres, puisqu'on va les attraper, réussir à faire table nette de tout ressentiment avant de revenir, et puis réussir à trouver les mots justes les plus empathiques possibles, avec de l'humour si possible. Attention, l'humour, il ne faut surtout pas que ça tombe dans la moquerie, et garder confiance qu'on va réussir à avancer ensemble. En tout cas, j'ai ma responsabilité si je fais figure d'autorité et si je fais rien, je vais être pas bien, ça va m'agacer de rien faire. Donc, c'est aussi réussir à agir. Ensuite, il y a les cas, c'est des collègues. Là, ça va être à peu près les mêmes choses pour les collègues, sauf que on n'est plus légitime pour venir directement donner les conseils, mais on va pouvoir en proposer. On va pouvoir en proposer, on va pouvoir aussi proposer des lectures, proposer des émissions à écouter. Et pour ça, il faut d'abord être bien connecté, donc que l'autre, il sente qu'on n'est pas en train de le juger. Et trouver le bon moment, une fois que la connexion est là avec le collègue, pour pouvoir lui proposer d'autres manières de faire. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit jusque-là, mais c'est tellement indispensable, c'est être le modèle soi-même, être le modèle de ce qu'on a envie d'exprimer et de faire vivre. Alors, je sais qu'il y a une petite limite à ça, c'est que quand notre modèle est de parler gentiment et de ne pas surintervenir, on n'a pas le temps de le faire, si tous ceux autour de nous, ils sont en train d'intervenir avant de manière inadaptée. Donc, ça serait juste pouvoir dire, attends, là, je vais gérer ce moment-là. Voilà, réussir à aménager cet espace et à dire, attends, ça peut se passer autrement. Là, je te propose de regarder comment on peut faire. Bon, après, il faut être bon. Et pouvoir se manifester, de dire, attends, il y a une autre manière de faire, mais qui sera peut-être moins interventionniste, tout différemment, mais en fait, là, j'ai pas le temps de le faire si t'interviens avant moi. Et oui, et c'est aussi montrer sa vulnérabilité, hein, quelque part, il s'agit pas de jouer au caliméro, mais pouvoir dire, voilà, j'ai autre chose à proposer, j'aimerais bien pouvoir le proposer, et pour ça, j'ai besoin d'un petit peu plus d'espace, en fait, pour que ça arrive. Donc, je suis un modèle aussi, bien sûr. Alors, cas plus délicat, c'est dans ma hiérarchie que ça cloche. Alors, s'il y a une hiérarchie encore au-dessus de la hiérarchie, je peux toujours m'en référer à celle du dessus pour dire, voilà, il y a un petit problème. Hein. Et sinon, oui. Ça va être réussir à faire tout ce que j'ai dit là avant quand même, sachant que on sera encore moins légitime pour proposer quelque chose et qu'en plus on devrait peut-être devoir obéir à des choses qui ne le sont pas. Et là je crois que le plus gros secret c'est de dire waouh, maintenant est-ce que je suis prête à continuer dans ces conditions-là et j'appelle du plus profond de mon cœur que la situation change. Et oui, parce que vous savez cette magnifique parole qu'on a attribuée à Alexandre qui dit, Alexandre le Grand, qu'il faut savoir faire la différence entre les situations où l'on peut changer quelque chose, les situations où on ne peut rien changer. Voilà. Accepter celles où on ne peut rien changer, et puis agir quand on peut changer quelque chose. Alors, j'ai plus les mots exacts, mais voilà, vous voyez peut-être de quoi je parle. Et donc, en fait, on peut toujours agir. Alors, des fois, on peut agir directement. Des fois, la solution, ça va être de passer à autre chose, mais c'est peut-être pas plus mal. Mais en souhaitant les choses du plus profond de notre cœur, avec le plus de pureté possible et dans l'intention de servir les autres, et de se retrouver dans les meilleures circonstances possibles, on peut faire ces appels pour que ça change et que la situation évolue. Toutes les clés de comment on fait pour faire ça sont dans les enseignements IAM, encore une fois. Voilà, allez, un petit morceau de
musique maintenant.
Pour aujourd'hui, j'ai choisi pour régaler nos oreilles la sarabande de Handel, tirée qu'on peut écouter dans le film Barry Lyndon. Et là, c'est joué par l'orchestre philharmonique de la ville de Prague, la sarabande de Handel.
Thank you.
C'était un extrait de la sarabande de Handel, jouée par l'Orchestre Philharmonique de la ville de Prague. Je vais vous lire une histoire. C'est la troisième émission de suite que je vous lis une histoire de Claire Chanteperle, tirée cette fois-ci du livre « 5 fables de la sagesse et de l'amour », toujours aux éditions Prosveta, les liens sous l'émission. L'écrevisseau intrépide. Depuis que le monde est monde, les écrevisses dans les ruisseaux ont toujours marché à reculons. C'est ainsi. Au lieu de regarder où elles posent les pieds, de prévoir les dangers de la route ou de choisir le plus beau paysage à visiter, entre deux cailloux roses et un bosquet de cresson bleu, non, elles marchent, les yeux en arrière, prenant pour guide leur dos et leur queue, qui n'y voient rien. Et cela peut continuer encore des siècles ? Car les écrevisses aînées ont fondé des écoles pour enseigner cette façon de marcher aux petites écrevisses à peine nées. Les anciens montrent l'exemple de la marche à l'aveuglette, les bébés les imitent et les voilà tous partis en promenade à reculons. Oh, qui se réjouit bien de cette situation ? C'est le pêcheur, tiens. Et justement, il arrive au bord du ruisseau pour poser ses épuisettes. Ce jour-là, un jeune écrevisseau dans son ruisselet natal se laissait flotter délicieusement au gré du courant. Les vaguelettes se jouant de lui l'emportaient en avant de pierre en pierre. Il découvrit alors le miracle d'avoir des yeux pour guider sa marche. Il pouvait voir arriver chaque pierre, tendre ses pattes et amortir le choc. Il pouvait éviter les gouffres, les tourbillons, se cacher sous des herbes quand passait un monstre dans aigu. Il pouvait apercevoir de loin ses petits amis et les rejoindre en courant pour s'amuser avec eux. Il décida donc désormais que ses pattes se laisseraient guider par ses yeux et non l'inverse. Mais n'était-ce pas plus simple et plus sage ? Oh, mais à cette nouvelle ! La société des écrevisses poussa les hauts cris. « Qui n'avance pas avec nous recule ! Tu t'opposes au sens de la marche, tu es rétrograde, retardataire, tu entraves les progrès de l'espèce. » Une écrevisse le harangua. « Jeune homme, dans la vie, il faut toujours aller de l'avant. » Et elle partit en arrière. Une autre se campa devant lui. « Mon garçon, l'existence s'affronte de face. » Et elle s'éloigna de dos. Une troisième ajusta son monocle. « Mon petit, ouvre l'œil et le bon. » Et elle s'en alla à l'aveuglette. « Attention, attention !» cria l'écrevisseau. « L'épuisette du pêcheur, là, derrière vous !» Il était déjà trop tard. La même mésaventure arrive à beaucoup de gens qui croient progresser en marchant. À reculons ! C'était l'écrevisseau intrépide par Claire Chanteperle, issue de 5 fables de la sagesse et de l'amour, édition Prosveta. Des histoires inspirées de ce que racontait le maître Omra Mikhaïla Ivanov aux adultes. Et oui, dans toute bonne histoire, il y a différents niveaux de lecture et il y a quelque chose à apprendre pour les adultes. Finalement, je me dis des fois qu'à l'école, là où il y avait le plus de vérité, c'était dans toutes ces histoires pour enfants. Alors, sans transition peut-être ? J'ai envie de parler brièvement d'un autre sujet. Le sujet d'une pollution qui est invisible, mais qui a un impact, forcément, sur nos enfants. Les enfants qui ont un cerveau en plein développement, eh bien, sont sensibles, nous aussi les adultes, mais alors eux encore plus, aux champs électromagnétiques. Basse fréquence et haute fréquence. Alors là, je vais parler déjà des hautes fréquences. C'est quoi ? Alors, les plus grosses nuisances dans les endroits où se retrouvent les enfants, c'est le Wi-Fi, donc la box en Wi-Fi. C'est le téléphone sans fil branché sur la box, aussi appelé DECT. Et ce sont les portables des adultes, d'autant plus si les données mobiles sont allumées, bien bien plus. Et selon la marque des téléphones, vous savez celui qui a une pomme là, malheureusement, c'est largement les pires. Et celui qui se réfère à la galaxie sont nettement mieux. Voilà, donc ce sont ces trois sources principales-là, depuis l'intérieur en tout cas. À l'extérieur, on va pouvoir trouver les antennes, mais je l'ai sans doute déjà dit, je vous assure que c'est bien moindre que l'exposition qui peut être apportée par les outils de l'intérieur. Il y a aussi les montres connectées qui envoient des champs, des signaux comme ça, bip bip bip, toutes les 30 secondes avec un bon champ d'un volt par mètre à ce moment-là. À mon sens, il ne s'agit ni de tomber dans la psychose, ni de faire l'autruche, mais de trouver cet espace qui s'appelle l'espace de responsabilité. Donc, en tant que parent ou en tant que professionnel auprès des enfants, est-ce que je pourrais pas me poser la question à quel champ j'expose les enfants ? Alors, ça demande quelques connaissances, légèrement un esprit scientifique pour approcher tout ça. Déjà, il y a quelques petites choses à savoir. La boxe, elle émet fort, le Wi-Fi, surtout, alors même s'il n'y a pas le Wi-Fi, elle émet déjà un petit peu, dans un mètre autour. Et s'il y a le Wi-Fi, elle émet fort dans 5 à 6 mètres. Alors, ça dépend des boxes dans un rayon de 5 à 6 mètres. Le téléphone sans fil, il vous pollue toute la maison, mais surtout aussi dans ce rayon de 5 à 6 mètres. Le téléphone portable avec les données mobiles, là c'est quelques 1 mètre, 1 bon mètre, 2 mètres, oui, alors un peu plus si on est en pleine activité. Voilà, déjà savoir où ça se passe. Ensuite, c'est très fluctuant et le corps humain, il n'aime pas aussi ce qui est fluctuant. Voilà. Donc, quand j'aménage ma classe ou ma crèche ou voilà, l'endroit où je suis avec les enfants, est-ce qu'il y a le Wi-Fi ? Alors, je dis 5 ou 6 mètres, mais ça dépend. Après, il y a les relais. Enfin, voilà, après, il faut mesurer. Mais déjà, si j'ai juste une box allumée dans une école, est-ce que je mets des enfants dans un rayon de 5 à 6 mètres ? Si oui, à mon sens, c'est un manque de responsabilité. Ensuite, est-ce que je me promène dans la classe avec mon téléphone portable, avec les données mobiles allumées ? Voilà. Est-ce que je laisse mon portable allumé sur mon bureau avec des enfants à proximité immédiate ? Il existe des appareils pour mesurer tout ça. Notamment, il y a l'acoustimeteur de EM Fields qui est de qualité professionnelle. Sur Felton, nous sommes un petit collectif à disposer de cet outil-là. Vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé pour venir faire une mesure chez vous ou là où vous œuvrez. Donc tout ça, ça existe et c'est vraiment de notre responsabilité de faire attention. Et on pourrait se dire, ah ben de toute façon, vous savez ma petite dame aujourd'hui, les enfants ils sont connectés, ils vivent de toute façon dans ce champ-là, donc bof, un petit peu plus, un petit peu moins. Non, alors là je suis pas d'accord. Déjà, si c'est une école, si c'est une crèche, c'est un endroit où l'enfant, entre plus l'école, il va passer plein de temps au même endroit, donc soumis constamment à ce même champ, enfin constamment beaucoup d'heures par semaine à ce même champ. Donc ça, c'est vraiment aussi important. C'est pour ça qu'à la maison, on va d'abord regarder là où on dort, l'exposition où on dort. Après, des endroits où on va passer beaucoup de temps, que ce soit le canapé ou la cuisine ou le bureau, on va regarder ces endroits-là. Donc, les enfants où ils sont assis, bah oui, c'est bien des endroits où ils vont passer beaucoup de temps et ça a un impact. Et ce n'est pas parce que le tas des couvrisseaux avec lequel on vit, ils marchent à l'arrière, qu'on ne peut pas leur dire que non, c'est aussi possible de marcher vers l'avant. Voilà. C'est pas parce que si tout le monde avait un gros problème chez lui, tout le monde a des poux, on va pas dire, l'école donne des poux en plus, mais c'est pas grave, ils ont déjà chez eux. Non. Ça marche pas comme ça. Voilà. Donc, je sais qu'on n'est pas très nombreux à se soucier de tout ça, mais s'il y a d'autres gens qui veulent échanger avec moi et voir ce qu'on peut faire, ça m'intéresse. Encore une fois, il ne s'agit pas de tomber dans la psychose, de prendre pour des fous ceux qui ne s'y intéressent pas, puisque si on tombe dans la psychose, on est d'autant plus sensible à tout ça et ça a encore plus des effets néfastes sur nous. Donc non, c'est en être conscient et agir pour éloigner ces choses-là, pour les mettre sous tension que s'il y en a besoin et hors tension le reste du temps. Mais il ne s'agit pas de tomber dans la psychose ni dans le jugement de ceux qui ne s'y intéressent pas. Voilà, c'était mon petit appel du cœur du jour. Eh bien, je vous remercie. Vous étiez à l'écoute de la 48e émission de Élève-toi
avec les enfants. Une émission de Émilie, ma maman.
Et tout ça, ça
Radio
se passe
Massivière.
Sur Radio Massivière. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si vous avez envie de m'envoyer un petit message, un grand message, vous pouvez tout à fait, soit par le formulaire de mon site, ou bien il y a l'adresse mail aussi, emily.roudier23@gmail.com. Au plaisir d'échanger avec vous. Et vous l'avez vu, vous posez des questions. Et bien après, je réponds pendant l'émission. Voilà. Excellente journée à tous.